Vous savez, il y a des messages de la part de Dieu qui sont faciles à apporter. Quand je dis facile, parce que ce sont des messages d'encouragement, de délivrance. Et puis il y en a d'autres qui sont plus lourds, qui sont plus sérieux. Et c'est quelque chose de difficile de parler de la part de Dieu parce que nous sommes simplement des hommes. Alors comme vous le savez peut-être, nous avons passé notre temps de vacances en Bretagne, dans le Trégor. Nous aimons bien cette région de Bretagne. Il y fait frais, la côte est belle et la mer est belle aussi. Et voici qu'à Lanvalec, pas très loin d'où nous étions, se trouve l'un des plus grands châteaux bretons. Un château grand construit avec du beau granit local. Et c'est un château qui surplombe une vallée et un cours d'eau. Ce château surplombe la vallée du Beau. C'est le château de Rosambeau. Et ce château est particulier parce que sa construction a débuté au XIVe siècle, je crois, et il a été agrandi, fortifié, embelli jusque récemment au XIXe siècle. Et ce qui est étonnant, c'est que ce château est toujours habité, il sert toujours d'habitation, et il est toujours habité par la même famille, par la même lignée qui a commencé sa construction. C'est devenu un marquisat sous Louis XIV, je crois, et voici que le marquis de Rosambeau actuel a fêté dans les années 80, en 88, les 1000 ans de sa dynastie. Une famille qui dure depuis 1000 ans. Un château qui est construit sur des fondations de 1000 ans et qui est toujours debout. Habité par la même famille depuis toujours. J'ai trouvé cela incroyable, j'ai vraiment trouvé cela étonnant. Ce château et la lignée de Rosambeau a traversé les siècles. Elle a résisté au temps qui passe, elle a résisté aux guerres, aux révolutions, aux maladies. Et voici que Rosambeau, en breton, cela signifie roc sur le beau. Le rocher sur le beau. Il a été bâti sur le rocher. La couche de terre a été dégagée et ce château a été construit sur le granit breton. Et il a résisté. Il a tenu bon. Alors la Bible nous révèle que le ciel et la terre disparaîtront. Et le château de Rosambeau, lui aussi, va passer et disparaître. Mais ce n'est pas de construction matérielle que j'ai à cœur de vous parler ce matin, mais d'édifice spirituel, de construction spirituelle. Il faut ce matin, frères et sœurs, mes amis, que nous nous interrogions sur le fondement de notre vie, que nous examinions avec vérité, avec humilité, avec droiture, avec honnêteté, si ce que nous bâtissons est solide. Si le chemin que nous suivons conduit bien au ciel, nous conduit bien au ciel. Et je vous invite à faire une lecture avec moi dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé, creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Amen. La ruine de cette maison a été grande. C'est par cet enseignement que le Seigneur Jésus termine le sermon sur la montagne. Construire sur le rocher. Tout au long de ce sermon, Jésus appelle les hommes à passer d'une pratique religieuse à une vie de foi véritable. Dieu appelle les hommes à passer de rites et d'habitudes à une communion véritable avec lui. La vie véritable. Et quel contraste entre ces deux constructions, entre ces deux vies. Vous avez bien compris qu'il s'agit de l'image de nos vies. Quel contraste entre ces deux constructions. Matthieu, dans le même récit, faisant le même récit, va qualifier ces deux hommes, ces deux façons de vivre, qualifiant un homme de prudent et un homme de fou. Lorsque j'emploie le terme d'homme, vous pouvez mettre celui de femme aussi, hein, je ne vais pas le faire à chaque fois. Un homme prudent, un homme qui est qualifié de prudent et l'autre de fou. Quel contraste entre le rocher et la terre, le sable. Quelle différence entre ces deux maisons. Une qui résiste et une qui s'écroule. Un homme qui est sauvé et un homme qui est perdu. Quelle maison voulez-vous construire ? Quelle maison voulez-vous construire ? La même que moi. La même que tous. Nous voulons construire une maison qui résiste. Nous voulons construire une vie qui soit solide et qui nous conduise jusque dans la vie éternelle. Jésus-Christ est le fondement de l'Église. L'Église, cette communauté de croyants qui sont unis à lui par la conversion et la nouvelle naissance, et qui a ses parties visibles dans les assemblées locales. Jésus est le fondement de l'Église. Et il est aussi, de façon individuelle, le fondement de la vie du croyant. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Le seul qui soit valable, le seul qui soit sûr, c'est Jésus-Christ. Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. 1 Pierre chapitre 2, verset 6. Le seul fondement du salut, c'est Jésus-Christ. Pour aller au ciel, il faut construire sa vie sur Jésus. Vous êtes d'accord avec cela ? Peut-être l'avez-vous expérimenté, et certainement vous l'avez expérimenté, construire sa vie sur Jésus. Alors c'est entré dans le langage courant des assemblées chrétiennes, de nos assemblées. Jésus est notre rocher, il faut bâtir nos vies sur lui. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie, bâtir sa vie sur Jésus? Construire sa vie sur le rocher pour éviter la destruction et la ruine. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Alors il y a un commencement. Toute construction, il y a un commencement. Il faut bien sûr commencer par entendre et croire, par entendre ou lire et croire, accepter le salut en Jésus-Christ. Mais cela ne doit pas s'arrêter là, frères et sœurs. Il faut ensuite permettre à Jésus d'établir sa seigneurie dans nos vies, d'établir sa seigneurie sur notre existence. Seigneur, Seigneur, nous avons lu dans le texte et nous l'avons professé ce matin. Je l'ai peut-être dit, je l'ai entendu. Seigneur, Seigneur, le titre de Seigneur était celui que les disciples donnaient à Jésus. Et nous continuons à l'appeler ainsi. Et Jésus approuve ce titre. Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison, car je le suis. Jean chapitre 13, verset 13. Qu'est-ce que ça signifie, Seigneur ? Qu'est-ce que cela entraîne ? Seigneur, c'est la traduction du terme grec kurios. Dieu, le Messie. On ne peut pas prononcer ce nom des lèvres. On ne peut pas le donner à Jésus sans le reconnaître comme tel, de façon concrète. On ne peut pas donner ce nom à Jésus sans faire la volonté du Père. Le Seigneur, c'est le roi. Le Seigneur, c'est le propriétaire de notre vie, si nous l'appelons ainsi. C'est lui, le propriétaire. Jésus ne s'adresse pas à des païens dans le sermon sur la montagne, dans le texte que nous avons lu. Il s'adresse à des croyants qui le suivent, il y a des croyants qui pensent le suivre. Des croyants qui pensent qu'ils sont sur le chemin qui les conduit au ciel. Mais Jésus soulève une incohérence chez ses seconds. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Ces hommes se trompent eux-mêmes. Seigneur, Seigneur, tout homme qui vient à moi entend mes paroles. La caractéristique du véritable disciple, ce n'est pas simplement d'entendre et de croire. La caractéristique du véritable disciple, c'est d'entendre et de pratiquer. Pratiquer ou ne pas pratiquer, faire ou ne pas faire ce que dit Dieu. Et pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », mais il faut accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? le salut et l'obéissance sont indissociables, frères et sœurs. Le salut et l'obéissance ne peuvent être séparés. Hébreux chapitre 5, versets 8 et 9. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent. Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Vous êtes d'accord avec moi que cela va plus loin que de lever sa main un jour à un appel à la repentance, que cela va plus loin qu'une adhésion intellectuelle, que cela va plus loin qu'une présence à un rassemblement de temps en temps ou même souvent. Cela va plus loin que ça. Appeler Jésus Seigneur, Seigneur. Cela va plus loin que cela. Dans la parabole des 10 jeunes filles, Jésus précise que toutes attendent l'époux. Toutes l'attendent. C'est que donc elles espèrent toutes partir avec lui. Sinon, elles n'attendraient pas, elles feraient autre chose. Toutes attendent l'époux. Et toutes s'endorment. Toutes s'endorment. Mais il y a une différence. Comme dans les deux constructions, comme dans les deux bâtiments, il y a 5 de ces jeunes filles qui vont rester. Le maître ne va pas les prendre. Tandis que 5 autres vont être prises. Et aller à la noce. On n'a pas le temps de lire le texte. Mais il y en a 5 qui sont qualifiées de folles. Et il y en a 5 qui sont qualifiées de sages. Il y a un homme prudent qui construit sur le rocher. Et il y a un homme fou qui construit sur la terre, superficiellement, qui construit sur le sable. Celui qui entend et met en pratique a posé ses fondations sur le rocher et sa maison va résister, sa vie va résister à tout. Et ce, jusque dans l'éternité, pas simplement pour un temps, pas pour 3 mois, pas pour 6 mois, pas le temps d'une réunion, pas le temps de quelque chose de superficiel, pas le temps d'une ambiance, pas le temps de suivre quelqu'un pour faire comme les autres. Non, celui qui bâtit sur le rocher, c'est solide et cela l'amène jusqu'à la vie éternelle. Cette maison ne connaît pas la ruine, malgré ce qu'elle subit. Les deux sont soumises au même traitement. Le torrent, la pluie, une résiste. Et l'autre va à la ruine. Construire sur le rocher, c'est faire ce que Dieu dit. C'est obéir à sa parole. Pas seulement accepter le salut en Jésus-Christ de façon superficielle. Obéir à Dieu, c'est construire une maison sur du solide. Alors ne nous méprenons pas. C'est bien la foi qui nous conduit au salut. Le salut est bien une grâce. C'est le don de Dieu, nous dit la Bible. Le don de Dieu. Un don, ça ne se mérite pas. Ça ne s'achète pas. Un don, cela se reçoit. Ce que nous faisons ne nous procure aucune justice. Aucune justice. Mais l'obéissance prouve que notre foi est authentique. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais les œuvres que nous accomplissons prouvent, attestent de ce que nous sommes et de qui dirige notre vie, de qui a la première place dans notre cœur. Notre salut doit entraîner des actes et des actions qui sont conformes à la volonté de Dieu, conformes à sa parole. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Amen. Qu'est-ce qui caractérise la vie de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu ? Qu'est-ce qui caractérise la vie de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu ? On en connaît quand même quelques-uns. Ils font ce que bon leur semble. Ils font ce qu'ils ont envie de faire sans se soucier de Dieu, sans se soucier de son avis, sans se soucier de sa direction, sans se soucier de son amour, sans se soucier de savoir si ce qu'on fait va le blesser. Non, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu se moquent de tout cela. Ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés par tout cela. Ésaïe chapitre 53, verset 6. « Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » Le perdu suit sa propre voie. Il est indépendant. Il dirige sa vie comme il l'entend. Nous étions. Cela signifie que c'est quelque chose de passé. Lorsque l'on appartient à Dieu, lorsqu'on a fait l'expérience du salut en Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est passé, qui est terminé. Nous étions. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Voilà qui est en réalité l'insensé, qui construit sa maison sans fondation. Il dit « Seigneur, Seigneur », mais en fait, c'est un homme rebelle. Il dit « Seigneur, Seigneur », mais il ne fait pas la volonté du Père. Et ce qui est terrifiant, c'est que ça le conduit à la ruine. Moi, ce texte me terrifie. Parce que d'apparence, ces deux maisons sont semblables. On ne voit pas de différence. Mais la différence est terrible. La différence est capitale. L'une mène à la vie éternelle. L'une va résister jusque dans la vie éternelle. Et l'autre va tomber en ruine. Et c'est la façon de vivre. Ce sont les épreuves, les tentations. Tout ce qui vient frapper ces maisons. Et c'est surtout le regard de Dieu. Parce que lui, il sait toutes choses. Il voit au fond des choses que nous ne voyons pas, lui. Il est capable de le voir. Il sait toutes choses. C'est le regard de Dieu qui va finir par révéler la véritable nature de ces constructions. Nous trouvons le même récit dans l'évangile de Matthieu. Nous n'allons pas le lire, mais ce récit précise ceci concernant ceux qui appellent Jésus « Seigneur, Seigneur » sans faire la volonté du Père. Il précise même que ces hommes, ces femmes ont accompli de grandes choses en son nom, des miracles, des prodiges. Ils ont prophétisé, ils ont parlé dans le nom du Seigneur. Et Jésus va leur dire quelque chose de terrible et sans appel. « Je ne vous ai jamais connu. » Matthieu 7, 23. Je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce que ça signifie, je ne vous ai jamais connu? Jésus sait très bien qui ils sont. Jésus sait très bien qui ils sont. Je ne vous ai jamais connu, cela signifie que Jésus n'a jamais eu d'intimité avec eux. Il n'a jamais eu de relation véritable avec eux. Pour finir, ils ont fait leur vie dans leur coin. Je ne vous ai jamais connu. Qui c'est notre bon berger, frères et sœurs? C'est Jésus. Moi, je suis le bon berger. Et quelle est la caractéristique de ce bon berger? Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Jean 10, 14, et si on poursuit au verset 16, elles écouteront ma voix. Elles écouteront ma voix. Si Dieu est notre berger, si Jésus est celui qui conduit notre vie, c'est une relation de tous les instants, de toutes les secondes. Je ne vais pas m'adresser à lui une fois par semaine. Je ne vais pas intercéder que lorsque je suis malade, que lorsque j'ai besoin de lui. Je ne vais pas demander son éclairage qu'à chaque fois qu'il me semble que je prends une décision importante. Non, c'est une relation faite d'intimité, de communion. C'est une relation de tous les instants. Pas que lorsque j'en ai envie, pas que lorsque j'en ai le temps, pas que lorsque j'y suis disposé. Non, une relation intime. Je connais mes brebis et elles me connaissent. 1 Jean chapitre 2, verset 3. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui, si nous gardons sa parole, si nous sommes des enfants obéissants, si nous nous inquiétons de connaître sa volonté, sa direction, si nous prenons garde à ne pas nous éloigner de lui, mais à toujours le mettre au centre de nos préoccupations, de notre emploi du temps, de notre vie. Tout est finalement très logique et très simple. Construire sur le rocher, c'est obéir à Dieu. Connaître Christ et être en communion avec lui. Et quoi de plus naturel? Lorsqu'on est en communion et en relation avec Jésus sur la terre, que cela se poursuive dans le ciel et pour l'éternité. Et quoi de plus naturel que lorsque on fait ce qu'on a envie, on fait notre propre volonté, qu'on n'est pas en communion avec Jésus, qu'on est séparé de lui. Quoi de plus naturel que cela aussi se poursuive pour l'éternité? C'est quelque chose de logique et de très compréhensible. On va faire une dernière lecture ensemble dans l'épître de Jacques. Alors je vais demander, voilà, ça va être affiché parce que j'ai relevé ce texte dans la version Parole Vivante. Donc si quelqu'un a la transcription, pardon, c'est pas une version, c'est une transcription. Si quelqu'un a la transcription Parole Vivante, vous pouvez suivre. Sinon, vous allez suivre sur le vidéoprojecteur. Et moi, je l'ai noté. Jacques chapitre 2, versets 20 à 24. Veux-tu avoir la preuve, espèce de tête creuse, qu'une foi sans acte ne sert à rien? Prends le cas d'Abraham, notre ancêtre. Comment fut-il déclaré juste? N'est-ce pas en raison de ses actes, puisqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, chez lui la foi et les œuvres agissaient de concert, se complétant mutuellement. Par les actes qu'il accompagnait, Sa foi atteignit son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a placé sa confiance en Dieu. C'est pourquoi Dieu a porté sa foi à son crédit et l'a déclaré juste. Et il l'a appelé son ami. Vous voyez donc qu'un homme est déclaré juste devant Dieu à cause de ce qu'il fait, et pas seulement à cause de ce qu'il croit. Et on saute au verset 26. « Sans l'esprit, notre corps est sans vie. De même, si elle ne produit pas d'actes, la foi est morte. » Abraham a obéi à la parole de Dieu, malgré ce qu'il lui demandait. Abraham a obéi à la parole de Dieu. C'est la foi qui conduit au salut par grâce. Je le répète. Mais nos actes prouvent que notre foi est authentique. Construire sur le rocher, ce dernier texte du sermon sur la montagne, il est peut-être difficile à entendre. Il est difficile à apporter, en tout cas, je vous assure. C'est un texte qui est violent, mais il est salutaire. Il peut être salutaire parce qu'il nous met en garde contre nous-mêmes. L'homme a cette capacité, cette faculté à se tromper lui-même. Jacques, encore lui, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et je vais terminer. Alors, à quoi ça ressemble une vie construite sur le rocher ? À quoi ça ressemble une vie construite sur le rocher ? Une vie construite sur le rocher, c'est la vie d'Abraham, qui mourut après une heureuse vieillesse, nous dit la Bible, âgé et rassasié de jours. Voilà une vie construite sur le rocher. Et il est allé rejoindre au ciel celui qu'il a appelé son ami. Dieu l'a appelé son ami. Mais une vie construite sur le rocher, c'est aussi la vie d'Étienne, qui a été persécuté pour sa foi et qui a été lapidé pour les paroles qui sortaient de sa bouche, alors qu'il n'avait vraisemblablement qu'une trentaine d'années. Un homme jeune, c'est cela aussi, construire sa vie sur le rocher. Quelqu'un qui, sous les pierres, est capable de dire « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Quelqu'un qui, avant de s'endormir, parce que Dieu lui fait grâce de la souffrance insupportable, prie pour ceux qui sont en train de le tuer. C'est cela, construire sa vie sur le rocher. Et permettez-moi de citer un exemple local en la personne du pasteur Félix Neff, celui qui a été surnommé l'apôtre des Hautes-Alpes à cause du travail qu'il a effectué dans nos montagnes et nos vallées au service de Jésus-Christ. Félix Neff est mort à 31 ans, dans les souffrances, dans son lit, vraisemblablement d'un cancer à l'estomac. Et voici les derniers mots qu'il écrivit. Je monte vers notre Père en pleine paix. Je monte vers notre Père en pleine paix. Victoire, victoire, victoire par Jésus-Christ. Alors Félix Neff n'a pas laissé de château, en Bretagne ou ailleurs. Il méprisait tout ce qui était mondain. Félix Neff n'a pas laissé de lignée familiale. Il n'a pas pris le temps de se marier. Il n'a pas voulu imposer à une épouse la, la dureté et la précarité de sa vie. Certainement, il a commis des erreurs. Certainement, il s'est trompé. Certainement, il a fauté, comme Abraham, comme Étienne, comme moi, comme toi, comme chaque chrétien, même véritable. Mais il a vécu la volonté de Dieu pour sa vie. Et sa maison a résisté. Sa maison a résisté. La question que je dois me poser ce matin, c'est sur quoi suis-je en train de construire ma vie ? Est-ce que c'est bien sur le rocher ? Est-ce que c'est bien sur Jésus-Christ ? Est-ce que c'est bien sur sa parole ? Est-ce que je recherche sa volonté ? Est-ce que je l'entends me parler ? Est-ce que je veux qu'il me parle ? Est-ce que je l'entends encore me parler ? Dieu parle. Si on ne l'entend pas, c'est qu'on ne veut pas savoir ce qu'il dit. Si on ne l'entend pas, c'est qu'on a les oreilles bouchées. Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Sur quoi suis-je en train de construire ma vie ? 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. J'ai relevé la version « Parole de vie ». Interrogez-vous. Voyez si vous vivez comme des croyants. Examinez-vous. Vous reconnaissez bien que Jésus-Christ est en vous, n'est-ce pas ? Ou alors, vous ne pouvez pas donner des preuves de votre foi. J'aimerais qu'on s'incline ce matin et que chacun, dans le secret de son cœur, et que chacun, dans la présence de Dieu, et que chacun, à la lumière de ce que nous avons partagé ce matin, puisse, avec humilité, avec vérité, avec sincérité, s'examiner. C'est pas quelque chose de superficiel. C'est pas quelque chose d'accessoire, d'optionnel. Nous devons nous examiner régulièrement pour savoir où nous en sommes, pour savoir où nous allons. Et Dieu veut que nous le fassions ce matin. Interroge-toi et vois si tu vis comme un croyant. Vois si tu vis comme un croyant. J'aimerais que... Oui, on peut rester quelques minutes comme cela avec Dieu. Prie, demande. Dieu est là. Dieu répond à la prière. Si tu as bâti ta vie sur le rocher, alors loue-le, parce que c'est ton Seigneur. Si tu ne l'as pas encore fait, ce n'est pas trop tard. Si tu l'as mis de côté, si tu n'es plus réellement en communion avec lui, si c'est devenu quelque chose d'accessoire, d'hebdomadaire, de mensuel, rectifie le tir. Ce n'est pas trop tard. Fais-le avant que la maison s'écroule. Repars sur des bases solides, sur des bases fermes. Seigneur, je veux te prier pour chacun d'entre nous. Que tu sois notre Seigneur, véritablement notre Seigneur. Que nous accomplissions ta volonté dans nos vies. Imparfaitement, c'est certain. Avec des chutes, c'est certain. Mais ta volonté, que nous soyons en communion avec toi,
ici-bas et pour l'éternité. Amen. Que Dieu prenne toute notre vie, toute notre vie. Nous voici, Seigneur, pour te servir. Amen.